Bonjour et bienvenue à l'émission Le quotidien des quotidiens. Hélène Denis avec vous en ce 8 mars 2018. Bonne journée internationale des femmes. Bonjour Mathieu.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Je vais bien.
Oui?
Oui.
Avez-vous quelque chose à me dire, vous?
Oui, plein de choses.
En ce 8 mars?
Parce que c'est la journée internationale des droits des femmes.
Mm-hmm.
Alors, bonne journée internationale des droits des femmes.
Merci, mon cher. Je vous écoute.
Ah oui, bon, alors, le 8 mars... Outre cette journée internationale, que s'est-il passé dans l'histoire? Je remonte à 1360, signature d'un traité de paix entre la femme, Jean le Bon, et l'Angleterre, Édouard III, pour mettre fin à la guerre de 100 ans. Provisoirement, en fait, il faut savoir que la guerre reprend 9 ans plus tard, donc de 1337 à 1453.
Elle s'appelait Jean?
Il s'appelait Jean le Bon, le dirigeant de la France à l'époque.
Oh, d'accord.
En 1911, pour la première fois, des empreintes digitales servent devant un tribunal à New York. Un cambrioleur sera condamné. En 1917, à Saint-Pétersbourg et ailleurs en Russie, des femmes défilent pour du pain et pour le retour des maris partis à la Grande Guerre. Le mouvement va s'amplifier. Révolution de février et le tsar abdiquera le 15 mars. 1950, début de la production du microbus emblématique de Volkswagen, le fameux Type 2 ou Transporter, que l'on a connu ici sous le nom de Westphalia. 1957, la Cour suprême conclut que la loi dite du cadenas adoptée en 1937 sous Maurice Duplessis, soi-disant pour contrer la propagande communiste, outrepasse la juridiction de Québec. 1971, à la boxe, Joe Frazier conserve son titre des poids lourds en disposant de Muhammad Ali par décision de l'arbitre dans un match de 15 rounds disputé à New York. La chute d'une poutre de béton au chantier du Stade olympique à Montréal en 1976 cause la mort de 4 ouvriers et 4 ouvriers sont blessés. 1985, l'explosion d'une voiture piégée à Beyrouth fait 75 morts et 250 blessés. 1988, le premier ministre Robert Bourassa annonce le début des travaux de la deuxième phase de la baie James au coût de 7,5 milliards de dollars. Le projet, qui doit comprendre la construction de 3 barrages, procurera 40 000 emplois par année sur une période de 7 ans. 1989, la Chine impose la loi martiale au Tibet après 3 jours d'émeute. En 2000, à Trois-Rivières, à sa demande, un pédophile récidiviste subit la castration chirurgicale. En 2002, une astéroïde de 50 mètres de diamètre passe à 463 000 km sans que personne ne s'en soit rendu compte dans les observatoires. En 2014, disparition du vol 310 Malaysia Airlines au-dessus du golfe de la Thaïlande. Rappelons que le 17 janvier 2017, les autorités annoncent la suspension des recherches, l'avion n'ayant pas été localisé dans la zone de 12 000 km² où elles avaient été effectuées. Et pour ce qui est des décès, du 8 mars en 1907, Ferdinand Zeppelin, pionnier du dirigeable, et le compositeur français Hector Berlioz, qui était né en 1803, est décédé un 8 mars 1803. 69.
Merci Mathieu.
Avec plaisir.
Alors, mea culpa, Mathieu, qui me dit... T'avais pas besoin de me le dire que c'était la Journée internationale des femmes ou de me demander de te le souhaiter. J'allais le faire spontanément, moi. Alors, mea culpa en cette Journée internationale des femmes, mais Mathieu va quand même mettre des chansons en pensant à nous toutes.
Bien, certainement.
À la une de la presse, dossier spécial Journée internationale des femmes. Beaucoup de pages consacrées à cette journée. Au-delà des mots clic, 100 ans de lutte, 100 ans d'avancée et 6 enjeux pour aujourd'hui et demain. Actualité éducation, devancer la récré pour moins manger. Science, Jupiter comme vous ne l'avez jamais vu. Chronique de Marie-Claude Lortie, femme au pluriel en argent. Le mouvement pour les droits des femmes compte d'immenses gains à son actif, mais force est de constater que certaines injustices sont plus tenaces que d'autres. Dans le cadre de ce dossier spécial, la presse revient sur des grands acquis et vous présente 6 enjeux pour lesquels il reste encore du travail à faire et des solutions constructives pour y arriver. Alors d'abord l'histoire, Laura Julie Perrault, aux urnes citoyennes. Il y a 100 ans, en reconnaissance du rôle des femmes lors de la Première Guerre mondiale, le Canada leur accorde le vote après une longue campagne menée par les suffragettes, les abolitionnistes et les partis socialistes. Ces femmes se sont inspirées des mouvements en Grande-Bretagne, mais aussi aux États-Unis. Ces idées ont notamment été amenées par les immigrantes britanniques au début du 20e siècle, note John Sangster, professeur à l'Université Trent. Ce droit important ne s'étend pas automatiquement aux provinces. Faisant face à d'importantes réticences dans une société dominée par l'Église catholique, les Québécoises, Thérèse Casgrain en tête, mettront 22 ans de plus à obtenir le droit de vote. Les femmes autochtones vivant sur les réserves sont exclues de ces mesures. Elles ont obtenu ce droit en 1960. Adopté en 1866, le Code civil québécois inspiré de celui de la France met les femmes sur un pied d'égalité avec les enfants en matière de droit juridique. Le combat pour l'égalité juridique des femmes qui concernait la propriété, les droits en tant que mère et bien d'autres, a débuté en même temps que la bataille pour le suffrage, mais a pris beaucoup plus de temps, dit Mme Sangster, qui vient tout juste de publier un livre intitulé « 100 ans de lutte ». Au Québec, les femmes ont dû attendre jusqu'au début des années 80 pour que le Code civil reconnaisse l'égalité complète entre conjoints. En scandant « Nous aurons les enfants que nous voulons », le mouvement féministe québécois s'en est pris au rôle de l'Église dans les chambres à coucher dès la fin des années 50. L'accès aux contraceptifs, criminalisé à la grandeur du pays en 1892, et à la planification familiale devient une des demandes centrales des groupes de femmes pendant la Révolution tranquille. En 1960, la pilule contraceptive est légalisée. 7 ans plus tard, la première clinique de planification des naissances au pays ouvre ses portes au Québec. La bataille pour le droit à l'avortement a été féroce au Québec. Avant 1969, une femme reconnue coupable d'avoir volontairement mis fin à sa grossesse risque la prison à vie. Après cette date, il est seulement permis aux femmes dont la vie est en danger de subir un avortement dans un hôpital. Défiant la loi restrictive, le Dr Henry Morgan Taylor ouvre la porte clinique d'avortement du pays. Henry Morgan Taylor ouvre la première clinique d'avortement du pays à Montréal, s'exposant à de lourdes poursuites. La longue bataille judiciaire du médecin rebelle, combinée aux manifestations et actions féministes, finit par donner gain de cause au mouvement pro-choix. En 1976, le Québec devient la première province à permettre la pratique des avortements en clinique. Il faudra cependant attendre jusqu'en 1988 pour que l'avortement soit complètement décriminalisé et en 2006 pour que les frais soient couverts par l'assurance maladie. En 1995, à l'invitation de la Fédération des femmes du Québec, 850 femmes marchent pendant 10 jours de Montréal à Québec sous le slogan « Du pain et des roses ». Elles réclament notamment la hausse du salaire minimum, l'adoption d'une loi sur l'équité salariale et la mise en place d'une infrastructure pour combattre la pauvreté. Toutes ces mesures sont adoptées dans les années qui suivent. Présidente de la Fédération des femmes du Québec à l'époque, Françoise David refuse de prendre tout le mérite de ces importantes avancées. Elle loue le travail de 2 féministes devenues députées péquistes, Lise Leduc et Céline Signori, qui ont fait cheminer ces idées au sein du gouvernement de Jacques Parizeau. Moi, le mérite que j'ai pu avoir, c'est d'avoir dit que tout le mouvement féministe était derrière la coalition qui travaillait sur ce dossier depuis les années 80, dit aujourd'hui Françoise David. 1997, cette année est marquée d'une croix rouge dans l'agenda de plusieurs femmes. Cette année-là, le gouvernement provincial met sur pied les garderies à 5 $ et adopte le projet de régime d'assurance parentale. « Je rêvais de ça depuis mes 20 ans », dit aujourd'hui l'ancienne première ministre Pauline Marois, qui est aussi mère de 4 enfants. Avec la bénédiction de Lucien Bouchard, Mme Marois et sa collègue Nicole Léger ont travaillé d'arrache-pied pour bonifier la politique familiale québécoise. Avec ces mesures, on a donné de vrais choix aux femmes et on a fait reculer la pauvreté, estime Mme Marois. Dans les années 70, la même vague de féministes qui a revendiqué le droit à l'avortement et à la planification familiale porte aussi le combat contre la violence sexuelle, qu'elle prenne la forme du viol ou du harcèlement sexuel, note Yolande Cohen, professeure d'histoire à l'UQAM. À l'époque, plusieurs lois sont adoptées pour protéger les femmes. Les femmes derrière les centres d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel, les CALAC, faisaient partie du mouvement féministe et ont joué un rôle central, ajoute Mme Cohen. Le mouvement, moi aussi, est la continuation de ce combat. Aujourd'hui, les féministes disent « on a des fois, mais il faut qu'elles soient « on a des lois, dis-je bien, mais il faut qu'elles soient appliquées », dit Mme Cohen. Depuis 3 décennies, des femmes autochtones dénoncent l'assassinat et la disparition de leurs sœurs dans l'indifférence générale. En 2004, Amnesty International publie un rapport consignant près de 500 cas et, de concert avec les organisations de femmes autochtones, demande au gouvernement d'agir. Cette demande restera lettre morte jusqu'en 2015, année où le gouvernement Trudeau annonce la tenue de l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones. C'est alors qu'on apprend que ce ne sont pas 500, mais 1186 femmes qui manquent à l'appel. L'enquête en cours connaît des ratés, mais a enfin permis de révéler l'étendue de la violence faite aux femmes autochtones dans tout le pays. Le 8 mars 1908, 15 000 travailleuses du textile descendent dans les rues de New York pour demander l'amélioration de leurs conditions de travail, ainsi que de leurs droits politiques. L'année suivante, pour commémorer ce mouvement de travailleuses, la première journée des femmes voit le jour aux États-Unis dans les rangs socialistes. En 1910, lors d'une conférence internationale sur les femmes à Copenhague, la communiste Clara Zetkin décrète la Journée internationale des femmes. À l'origine, la journée est surtout observée dans les milieux syndicaux et les partis de gauche. Quelques nouvelles internationales. Arabie Saoudite. L'apprentissage derrière le volant a débuté. Le prince héritier d'Arabie Saoudite a causé la surprise en annonçant l'an dernier qu'il permettrait aux femmes de son pays de prendre le volant. Enthousiaste à l'idée de prendre la route, des centaines de Saoudiennes apprennent ces jours-ci à conduire. « Je veux conduire une voiture, je veux être indépendante », a expliqué l'une de ces femmes, Sarah Gouth, 18 ans, rencontrée par l'Associated Press. « Mais je ne me suis pas sentie tout de suite à ma place. Je n'avais jamais été assise de ce côté-ci de la voiture. Habituellement, je suis du côté passager ou à l'arrière. J'ai fini par me sentir bien et en contrôle. » Le musée de l'Holocauste des États-Unis a annoncé hier qu'il retirait à la leader birmane Aung San Suu Kyi un prix prestigieux qu'il lui avait accordé en... Le musée de l'Holocauste des États-Unis a annoncé hier qu'il retirait à la leader birmane Aung San Suu Kyi un prix prestigieux qu'il lui avait accordé en 2012. La direction du musée, qui décerne chaque année le prix Elie Wiesel, du nom du lauréat du prix Nobel de la paix de 1986, a pris cette décision pour dénoncer le refus de la politicienne birmane de dénoncer les atrocités de masse commises à l'égard de la minorité musulmane Rohingya de son pays. longtemps vue comme l'icône de la lutte non violente contre la junte militaire de Birmanie, une bataille qui lui a aussi valu le prix Nobel de la paix, Aung San Suu Kyi a vu son étoile pâlir depuis que son parti a remporté les élections de 2015, lui permettant d'occuper un poste politique. Marché du travail, les femmes ont toujours beaucoup moins de chances que les hommes de participer au marché du travail en moyenne mondiale. C'est un extrait d'un rapport de l'Organisation internationale du travail publié à la veille de la Journée internationale des femmes qui souligne que pour chaque tranche de 10 hommes qui ont un emploi, seulement 6 femmes en ont un. Par ailleurs, mondialement, les femmes reçoivent 20 % de moins que les hommes pour leur travail.
Laurence Jalbert, mot de femme.
À la une du Devoir, une photo avec des filles, des femmes. Année après année, les femmes prennent la rue le 8 mars, Journée internationale des femmes, l'occasion de faire le point sur la lutte pour l'égalité. Cette année, cette journée a une saveur toute particulière avec le mouvement de dénonciation publique des agressions sexuelles Alors, le titre « Moi aussi, la honte a changé de camp ». Certains parlent d'une révolution, d'autres d'une révolte. Chose certaine, le mouvement est porteur d'un nouvel ordre des choses. Réduction des GES, gaz à effet de serre, les efforts du Québec restent insuffisants. Si rien de plus n'est fait, les émissions polluantes ne pourront être que stabilisées d'ici 2020, selon un rapport d'étape. Le poste de commissaire à la santé doit être rétabli, dit l'opposition. Neil Young, géant du folk, sera au Festival d'été de Québec. Acier et aluminium, le bras de fer se poursuit. Culture, l'éveil des consciences par la culture. On voit une photo du ministre de l'Éducation, Sébastien Proulx. C'est la chronique d'Odile Tremblay. L'étude alarmante sur la hausse de rémunération et la baisse de productivité des médecins ne sera pas la dernière à être produite par le commissaire à la santé et au bien-être si les libéraux perdent l'élection d'octobre 2018, puisque tous les partis d'opposition se sont engagés mercredi à réinstituer ce chien de garde du système de santé québécois s'ils accèdent au pouvoir cet automne. C'est le commissaire qui a financé l'étude ayant révélé mardi que l'enveloppe de rémunération des médecins a doublé entre 2006 et 2015, sans que cela entraîne une amélioration des soins aux patients québécois. Or, cet organisme public a été aboli l'an dernier par le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, 12 ans après sa création par Philippe Couillard, qui l'avait présenté comme un gage de transparence et une façon de dépolitiser le système de santé. Nous remettrons en place l'organisme qui a permis de révéler les dérapages de la rémunération des médecins, a affirmé le Parti québécois. Le chef de la coalition Avenir Québec, François Legault, a pris le même engagement. « Je pense que c'est nécessaire d'avoir un œil indépendant », a-t-il fait valoir. « Il faut absolument un organisme externe tout à fait indépendant qui puisse se pencher sur les meilleures pratiques. La preuve vient d'en être faite », a ajouté l'élu solidaire Amir Kadir. Le président de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, Louis Godin, a témoigné de l'importance d'avoir un regard le plus objectif possible sur les résultats qu'on voudrait atteindre et les résultats qu'on a atteints. Est-ce que ça doit être fait par le commissaire à la santé? Est-ce que ça doit être fait par quelqu'un d'autre? Ça reste un choix qui appartient au gouvernement, a-t-il ajouté. Gaétan Barrette a plutôt avancé que l'étude dirigée par le chercheur Damien Contendré-Opoulos se révélait d'aucune utilité puisqu'elle regorge de faits archi-connus et concerne la situation qui prévalait de 2006 à 2015. L'ex-directeur d'école, Mario Asselin, tentera pour une troisième fois de se faire élire sous la bannière de la Coalition Avenir Québec dans la circonscription de Vanier-les-Rivières cette fois. Et l'année 2018 sera la bonne pour ce natif de Loretteville, espère le chef caquiste François Legault, qui se dit très confiant qu'on est capable de remporter tous les comtés à Québec. Il y a comme un vent de changement à Québec, et celui-ci a commencé dans Louis Hébert, s'est-il réjoui, en disant s'affairer à bâtir une belle équipe Québec pour un éventuel gouvernement de la CAQ. Une bouteille à la mer, une bouteille contenant un message vieux de 132 ans a été trouvée par des promeneurs sur une plage australienne au nord de Perth, ce qui en fait le plus ancien exemple connu de bouteille à la mer. La bouteille rectangulaire aurait été jetée le 12 juin 1886 dans l'océan Indien, à 950 km des côtes par un bateau allemand, le Pola, dans le cadre d'expériences scientifiques visant à comprendre les régimes de courant et à améliorer les routes maritimes. Entre 1864 et 1933, l'Observatoire naval allemand a ainsi lancé à la mer des milliers de bouteilles avec un message demandant aux personnes qui les trouveraient de les retourner au consulat allemand le plus proche ou à l'observatoire basé à Hambourg. Couillard fait des annonces en France. Québec prêtera 34 millions à un industriel de la boulangerie française pour un projet de 88 millions à Boucherville, en Montérégie. Cela fait partie des annonces que le premier ministre Philippe Couillard a faites mercredi, dans le cadre de sa mission en France. L'entreprise française Bridor entend ainsi intégrer de nouvelles technologies dans ses installations de Boucherville d'ici à la fin de 2018. Aussi, un accord commercial entraînant des retombées de 24 millions sur 3 ans a notamment été annoncé entre 2 entreprises, au Québec et en France, concernant le lancement d'une plateforme numérique pour le maintien à domicile des aînés. Également, HEC Montréal a convenu de 2 ententes avec le géant Ubisoft à propos des start-up et aussi du transfert de technologie. Enfin, le Centre de recherche industrielle du Québec a signé 2 ententes avec des partenaires français relativement aux normes européennes auxquelles les entreprises québécoises doivent se conformer pour avoir désormais accès au grand marché de l'Union européenne. Merci d'écouter l'émission Le quotidien des quotidiens. Hélène Denis qui est avec vous. Je vous invite à rester des nôtres pour la suite de l'émission.
T'es toute nue sous ton poule, y a la rue qui est ma boule, joli mouma. T'as ton cœur à ton cou et le bonheur par en dessous, joli môme. T'as la rimelle qui fout le camp, c'est le dégel des amants, joli môme. Ta prairie, ça sent bon, fais-en don aux amis, joli môme. T'es qu'une fleur de printemps qui se fout de l'air et du temps. T'es qu'une rose éclatée que l'on pose à côté, joli môme. T'es qu'un brin de soleil dans le chagrin du réveil. T'es qu'une vente qu'on éteint comme une lampe au matin, joli môme. Tes baisers sont pointus comme un accent aigu, joli môme. Tes petits seins sont du jour à la coque, à l'amour, joli môme. Ta barrière de faux fois, ça fausse l'affaire, mais c'est doux, joli môme. Violette et le violon qu'on violente et c'est bon, joli môme. T'es qu'une fleur de passe-temps qui se fout de l'air et du temps. T'es qu'une étoile d'amour qu'on entoile au beau jour, joli môme. T'es qu'un point sur les i des chagrins de la vie. T'es qu'une chose de la vie qu'on arrose, qu'on oublie, joli môme. T'as qu'une paire de mirettes au poker des conquêtes, joli môme. T'as qu'une rime au bonheur, il faut que ça rime ou que ça pleure, joli môme. T'as qu'une source au milieu qui éclabousse du bon Dieu, joli môme. T'as qu'une porte en voile blanc que l'on pousse en chantant, joli môme. T'es qu'une pauvre petite fleur qu'on guimauve et qui meurt. T'es qu'une femme à repasser quand son âme est froissée, joli môme. dès qu'une feuille de l'automne, qu'on est feuille monotone, dès qu'une joie en allée, va vacher les villes à retrouver joli môme. T'es toute nue sous ton poule, y'a la rue qui est ma boule. T'es toute nue sous ton poule, y'a la rue qui est ma boule.
Joli môme.
Juliette Gréco qui chantait Joli môme.
Et c'est au tour du Journal de Montréal, à la une du jeudi 8 mars. Trois femmes dans un monde d'hommes, les trois journalistes sportives les plus connues du Québec en ont entendu des vertes et des pas mûres dans le vestiaire du Canadien. On voit les photos des trois journalistes en question, Chantal Maccabé, Elisabeth Rancourt et Jessica Rusnak. Plusieurs artistes du Québec se disent lésés. Les géants du web aident au plagiat. Alors, on a des noms comme AliExpress, eBay et Amazon. Fraude, un an et demi de prison pour un bandit à cravate. Le fondateur de la maison de production Cynar, Ronald Weinberg, a finalement passé moins de temps derrière les barreaux qu'assis à subir son procès pour une vaste fraude de 120 millions de dollars qui lui avait pourtant valu 9 ans de pénitencier. Mais après avoir été condamné en juin 2016, Weinberg, 66 ans, a récemment obtenu une semi-liberté pendant laquelle il travaillera comme consultant d'affaires pour des amis, en plus de faire du bénévolat. Weinberg avait été reconnu coupable d'avoir détourné des millions de dollars de Cynar, un fleuron québécois connu pour les dessins animés Caillou et l'ours Paddington, entre autres. Une grande partie de l'argent a été détournée dans un compte offshore Obama de 1997 à 2005. Weinberg avait été condamné à presque 9 ans de pénitencier par le juge Pierre Labrie qui avait souligné la cupidité du fraudeur. Derrière les barreaux, Ronald Weinberg n'a pas participé à des programmes de réhabilitation, mais il a travaillé quelques mois dans les cuisines du pénitencier. En janvier 2017, il a toutefois tout arrêté afin de se concentrer sur son dossier d'appel, indique la Commission des libérations conditionnelles du Canada. Car même condamné, Weinberg continue de contester tant le verdict de culpabilité que sa sentence. Comme rien n'indiquait qu'une libération mettrait en danger la sécurité du public, la commission n'a pas eu le choix que d'accorder à Weinberg une semi-liberté. Un homme ment sur son identité même jusqu'en prison. L'histoire de Claude Letourneau est pour le moins rocambolesque. Il s'est tristement fait connaître du public en 2012 lorsqu'il a été arrêté pour avoir caché des seringues souillées dans des vêtements vendus par des boutiques de Sherbrooke. Il avait alors écopé d'une peine de 4 ans de pénitencier après s'être reconnu coupable de ses crimes. Puis, en mars 2015, Letourneau a bénéficié d'une libération d'office. Pendant 2 ans, il aurait réussi à se faire passer pour André Martel, un Montréalais de 2 ans son aîné qui a lui aussi un passé criminel. Le mois dernier, le quinquagénaire a été arrêté peu après avoir vraisemblablement volé des chaînes en or valant 1 200 $ à la bijouterie Doucet du Carrefour du Nord à Saint-Jérôme. Les tourneaux auraient également menacé des clients qui tentaient de l'arrêter avec un exacto, menottes au poignet. Les tourneaux auraient continué de prétendre qu'il était André Martel devant les agents qui l'interrogeaient. Deux semaines plus tard, les résultats des empreintes digitales prélevées au début des procédures judiciaires ont été transmis à la police de Saint-Jérôme. Comme l'ADN de Létourneau était déjà dans le système pour ses crimes antérieurs, son subterfuge présumé a pris fin à ce moment. Le vrai Claude Létourneau fait donc maintenant face à des accusations de vol qualifié, de possession d'une arme en vue de commettre une infraction, d'entrave à la justice et de fraude à l'identité. Il doit revenir en cours aujourd'hui afin de subir son enquête sur remise en liberté. Quant au réel André Martel, il devra s'engager dans une série de procédures administratives afin de se dissocier du vol qualifié à la bijouterie. Les producteurs laitiers s'opposent à l'intention affichée par Santé Canada de classer certains de leurs produits, comme le lait au chocolat, sur un pied d'égalité avec les boissons gazeuses. L'organisme fédéral travaille actuellement sur un projet qui obligerait l'affichage de la quantité de sucre sur de nombreux produits. Ce serait le cas, par exemple, du lait au chocolat et de certains types de yogourts faibles en gras dans lesquels du sucre est ajouté pour des questions de goût. Cette perspective inquiète les producteurs laitiers qui craignent que certains de leurs produits soient reclassés. Les producteurs font valoir que les produits laitiers sont bons pour la santé et qu'ils ne méritent pas d'être considérés comme de simples boissons sucrées. Santé Canada devrait tenir des consultations au cours des prochains mois. Le chef de la police de Montréal, SPVM, Martin Prudhomme, a créé un précédent historique hier en s'entourant d'autant de femmes que d'hommes dans son nouvel état-major, tout en confiant à l'une d'elles le redressement des affaires internes de l'organisation. Ainsi, la nouvelle patronne de la direction des normes professionnelles du SPVM, Lynn Carbonneau, une ancienne sous-commissaire de la Gendarmerie royale du Canada, devient la première femme à prendre la tête des affaires internes. Simonetta Bart, qui fut promue directrice adjointe du SPVM l'été dernier, a été reconfirmée responsable, c'est-à-dire a été reconfirmée dans ses fonctions hier. Elle sera responsable de la direction des services corporatifs. Un jeune père de l'Estrie pourrait être accusé d'homicide involontaire sur son bébé de 6 semaines qui l'aurait secoué. Le cas avait été signalé aux policiers le 28 février par les pédiatres de l'urgence du CHU après qu'ils eurent constaté des hématomes au cerveau sur le poupon. Il avait été admis en détresse respiratoire. Le suspect, un homme de 19 ans sans antécédent judiciaire, avait été arrêté à son domicile de l'arrondissement de Bromptonville à Sherbrooke et accusé de voies de fait graves. Il a été arrêté de nouveau hier matin après la mort du garçonnet. Le suspect devrait comparaître aujourd'hui, une fois que le directeur des poursuites criminelles et pénales aura approuvé les nouvelles accusations. Un médecin de 28 ans de l'hôpital de Montréal pour enfants a été arrêté pour vol de fentanyl lundi sur son lieu de travail. Jacob Clemen a comparu hier au palais de justice de Montréal sous des accusations de possession et de vol de fentanyl pour une valeur de moins de 5 000 $. Selon l'acte de dénonciation, Clemen aurait volé ce puissant opioïde sur son lieu de travail. Jacob Clemen a été remis en liberté sous caution et reviendra devant le tribunal le 27 avril prochain pour la suite des procédures. On ignore les raisons qui auraient amené le jeune médecin à voler du fentanyl à l'hôpital, ni ce qu'il comptait faire avec cette substance 40 fois plus puissante que l'héroïne. La Régie de l'énergie a autorisé hier Hydro-Québec à hausser ses tarifs d'électricité de seulement 0,3 % à partir du 1er avril prochain. Selon Hydro-Québec, cette augmentation se traduira par un coût supplémentaire d'environ 43 cents par mois pour une petite maison chauffée à l'électricité ou de 90 cents par mois pour une maison moyenne, soit environ 10,80 $ par année. Les locataires pourraient même avoir droit à une baisse de leur facture d'électricité, alors que la première tranche de consommation résidentielle qui permet de bénéficier du tarif le plus bas est passée de 33 kWh à 36 kWh. Par ailleurs, la Régie de l'énergie n'a autorisé aucune augmentation pour les grands clients industriels d'Hydro-Québec. Le difficile voyage de Justin Trudeau en Inde a terni son image aux yeux des Canadiens, montre un sondage publié hier. Selon le coup de sonde de la firme Abacus, la proportion des gens ayant une opinion défavorable de la façon dont le premier ministre représente le Canada à l'international est passée de 21 % à 37 % au cours des 5 derniers mois. La proportion d'opinion favorable, elle, a chuté de 53 % à 38 % sur la même période.
Véronique Sanson et sa chanson « Besoin de personne ».
Tournée régionale des journaux « Le Soleil », Mylène Moisan, Molière, Shakespeare, Cervantes et « 30 femmes ». En cette journée spéciale, une chronique toute féminine. L'histoire commence il y a 25 ans. L'épouse d'un professeur d'université s'ennuie. Elle a l'idée d'inviter des femmes à prendre le thé chez elle pour parler, entre autres, de l'actualité. Hispanophone, elle tient les premières rencontres dans la langue de Cervantes. Des femmes anglophones se joignent au groupe, puis des francophones. Le bouche à oreille fait son œuvre. De plus en plus de femmes ont le goût de se joindre à ces conversations informelles, de parler de théâtre, de lecture. Tranquillement, presque naturellement, le groupe s'organise. Les femmes conviennent d'alterner les rencontres en français, en anglais et en espagnol, chez l'une et chez l'autre, à tour de rôle. La doyenne a 94 ans. Elle fait partie du groupe depuis sa création. Elle porte chaque fois un chapeau différent. Ne les cherchez pas sur Facebook ou ailleurs, on y entre quand on connaît une des membres et encore. On ne veut pas que ce soit trop gros. On a établi le nombre maximum de membres à 30, m'explique Céline, la présidente du groupe, et il n'y a pas beaucoup de roulement. Elles sont devenues amies avec le temps. Chaque mois, en anglais et en français, elles invitent quelqu'un pour discuter. J'étais cette quelqu'une, mardi. Le mois dernier, une chercheuse en pharmacie est venue causer de surmédication chez les vieux. Le mois prochain, un professeur de l'Université Laval viendra parler de l'ère Duplessis. Moi, ça tournait autour du bonheur. J'ai vite compris à qui j'avais affaire. Des femmes fortes et raffinées au parcours fascinant, qui viennent d'un peu partout, entre autres du Mexique, de Trois-Rivières, de Paris, des États-Unis. Une m'a parlé de la Deuxième Grande Guerre, des Juifs qu'elle a vu partir pour les camps. Une autre, née aux États-Unis, m'a précisé qu'elle n'est plus américaine jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à ce que Trump parte. Il y a eu une Chilienne, dont la santé est aujourd'hui plus fragile, qui a été membre du gouvernement Allende, qui a été chassée par Pinochet. La plupart de ces femmes ont bourlingué, et bourlinguent encore. Elles se tiennent informées. Ce sont des femmes très cultivées, des femmes intelligentes et en même temps d'une grande simplicité. Personne n'a d'égo dans notre groupe. Il n'y a pas de snobisme. Tout le monde se respecte. Ces femmes fêtent Noël ensemble. Elles ont leur rituel, comme cette réception chaque été dans les jardins du Cercle de la Garnison. Elles font discrètement un pied de nez aux conventions d'une certaine époque où les femmes étaient confinées à la cuisine. Comme dans le salon de la fondatrice où l'émancipation infusait à l'instar du thé, où le raffinement et les classes n'étaient pas une fin en soi, où elle n'était plus l'épouse de. La plupart d'entre nous avons un baccalauréat ou une maîtrise. Il y a des femmes qui ont eu des entreprises. L'époque a certes changé, mais il reste cette précieuse complicité dans le parcours de chacune de ces 30 femmes qui ont toutes convergé à Québec. Une amitié qui irrigue le cœur et la matière grise, depuis un quart de siècle. Toutes modernes qu'elles soient, ces femmes restent attachées à un certain savoir-être que d'aucunes regrettent qu'il se soit effiloché au fil du temps. De ce savoir-être, la politesse, la fidélité, le respect. Nous avons parlé d'amour, elles m'ont parlé d'indulgence, de tendresse, d'accepter l'imperfection de l'autre. Du groupe, une femme était en couple depuis 64 ans. Quelques autres depuis plus de 50 ans. J'ai passé 4 heures avec elles à discuter, à passer d'une conversation à une autre. J'aurais pu m'asseoir avec chacune d'elles et en faire une chronique. 30 femmes, 30 histoires. Je ne dis pas que ça n'arrivera pas. Il était passé 14 heures quand je suis partie, les laissant placoter entre elles en finissant le café. J'ai filé dans ma voiture, mon parcomètre était déjà expiré. J'ai sorti mon téléphone de ma sacoche pour voir si j'avais manqué quelque chose. Je n'avais rien manqué. Évidemment, on ne manque jamais rien. Et j'ai réalisé ceci, pendant 4 heures, en compagnie de toutes ces femmes, je n'ai pas vu un seul téléphone. C'est ça, au fond, un vrai réseau social. Dans le droit, Anissé Lejeune signe un article intitulé « Armée de courage et de dévouement ». Sandra Perron, première officière d'infanterie du Canada, a récemment publié en français « Seule au front », un témoignage de la première officière de l'infanterie canadienne, un récit poignant sur sa carrière dans les rangs de l'armée, un milieu réfractaire aux femmes où la gente masculine régnait en maître. Dès son plus jeune âge, Sandra Perron fait preuve d'une détermination et d'une force de caractère impitoyable. Fille de militaire, elle rejoint les cadets de l'air en 1979 à 14 ans, bien décidée à intégrer les rangs d'une unité de combat au sein des Forces armées canadiennes, ce qu'aucune Canadienne n'avait fait avant elle, un rêve qu'elle réalisera en 1992. Dès ses débuts, on lui met des bâtons dans les roues. En 1983, lorsqu'elle se présente au bureau de recrutement pour devenir commando aéroporté, l'officier recruteur lui suggère plutôt de devenir infirmière ou nutritionniste. Bien qu'elle excelle dans tout ce qu'elle entreprend, Sandra Perron devra livrer pendant ses 13 années au sein des facs un combat de tous les instants pour se tailler une place dans un milieu misogyne. Aussi déconcertant que cela puisse paraître, celle qui a servi avec courage et dévouement son pays a été déployée dans des zones hostiles comme en Bosnie et en Croatie, devait combattre un ennemi beaucoup plus proche, au sein même de l'armée. « Je voulais me battre sur les lignes de front, mais je n'aurais jamais pensé qu'elle se trouverait à l'intérieur du mess des officiers de mon régime », écrit-elle dans son livre paru aux éditions Québec-Amérique. Violée, harcelée, agressée à plusieurs reprises, Sandra Perron taira pendant de nombreuses années tout ce dont elle a été victime par crainte de voir sa carrière partir en fumée. « J'aurais probablement échoué mes phases d'entraînement » ou « Je n'aurais pas réussi au bataillon si j'avais parlé », estime Mme Perron. « Et je ne voulais pas devenir l'ennemi de l'organisation envers qui je suis encore très loyale. » La première fois qu'elle se confie, ce sera sur papier, au moment de rédiger son livre. La première fois que j'ai parlé du viol, je l'ai écrit. Mais je n'étais pas capable de le prononcer, confie l'ancienne officière. J'avais encore la mentalité d'il y a 25 ans. J'étais convaincue que je m'étais mise dans cette situation, que c'était de ma faute. À l'époque, elle avait eu ce lourd secret et s'est fait avorter en silence. Elle continuera à encaisser la violence verbale et à se faire traiter de super snatch, fente à sein, truie, linge à vaisselle, sacoche et PLOTE. Elle subira aussi des attaques physiques, comme au cours d'un exercice de prisonnier de guerre, où elle a été attachée à un arbre avant d'être battue et giflée pendant plusieurs heures, expérience dont elle garde des séquelles aux pieds. Mais pour Sandra Perron, ce qui est le plus difficile, ce sont les blessures du cœur. Ce n'était pas d'être attachée à un arbre qui a été difficile, mais d'être exclue, rejetée, harcelée par mes confrères de travail. Et ça, ça a failli avoir ma peau. Malgré les coups qu'elle a encaissés, Sandra Perron est la première Canadienne à terminer le programme de formation des soldats d'infanterie et à devenir officière du Royal 22e Régiment. Mais l'ancienne combattante finira par quitter les facs en 1996 après s'être vue rétrogradée malgré son expérience et ses rapports exemplaires. C'en était trop. Je voulais défendre mon pays, pas mon droit d'être dans l'infanterie. Je n'avais plus de tolérance, lance Mme Perron. Il lui a fallu plusieurs années avant de trouver la force de partager son expérience. « Ça faisait longtemps que je voulais le faire, mais je n'avais pas le courage de partager mes secrets. Mais il fallait que ça sorte. J'ai honte d'avoir gardé tout ça toutes ces années. » Mais l'exercice n'a pas été sans encombre. Celle qui n'a jamais flanché, même au front, a été prise de panique en 2017 lors de l'envoi à l'impression de la version anglaise de son livre. Je me suis retrouvée à l'hôpital et j'ai été suivie par un psychologue qui m'a diagnostiqué un stress post-traumatique. J'avais tout refoulé pendant des années. C'était le temps de tout sortir et de guérir, avoue-t-elle. Depuis la parution de son livre, Sandra Perron a reçu quelques lettres d'anciens collègues, dont une plus importante à ses yeux. Un de mes pires agresseurs m'a écrit pour me dire qu'il s'excusait sincèrement et qu'il avait toujours éprouvé de la culpabilité face à ce qu'il m'avait fait. Si aujourd'hui les femmes sont plus nombreuses qu'à l'époque à rejoindre les rangs de l'armée, Sandra Perron estime qu'il reste encore beaucoup de chemin à parcourir pour arriver à une équité. On a fait beaucoup de progrès. Il y a des femmes dans tous les corps de métier, mais il y a encore des histoires d'abus. À l'heure où une libération de la parole est enclenchée, le livre de Sandra Perron est un témoignage troublant voué à faire changer les choses. Je sentais que les facs, les Forces armées canadiennes, étaient prêtes à entendre mon histoire et à évoluer, précise-t-elle. Et, bien qu'un recours collectif d'anciens militaires a été déposé en 2016 pour dénoncer les agressions au sein des facs, Mme Perron ne souhaite pas se joindre à ces actions. « J'ai une autre approche, en travaillant avec les forces, afin de faire changer la culture. » Aujourd'hui, Sandra Perron réside à Gatineau et se lutte pour le droit des femmes dans les forces. Elle donne notamment des conférences sur la question de la diversité et de l'importance de l'inclusion de la femme dans l'armée. Merci d'écouter l'émission en direct du studio de Canal M de Vues et Voix. C'est le quotidien des quotidiens avec moi qui vous parle, Hélène Denis, en cette Journée internationale des femmes. Bon 8 mars à toutes et à tous. Restez avec nous, les actualités culturelles s'en viennent après la pause.